Alors, on dit officiellement la journée contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, mais il y a bien d'autres groupes qui ne sont pas nommés spécifiquement, mais qui en vivent la discrimination, notamment les lesbiennes. Tara Chanadé est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Bienvenue à l'émission, Tara.
Merci beaucoup.
Alors, on utilise toujours les accords et les pronoms féminins avec toi?
Oui.
D'accord. Alors, le mot existe, on appelle ça lesbophobie. On vient de parler de peur irrationnelle, alors parce que c'est la campagne de la Fondation Émergence. La lesbophobie, la peur donc contre des lesbiennes. Les lesbiennes et les femmes en général sont invisibilisées. Comment peut-on avoir peur d'un groupe qui est invisible?
Ben, la lesbophobie peut s'expliquer de plusieurs façons, mais une façon de la comprendre, c'est que la femme à travers l'histoire est vraiment comprise en rapport à l'homme. Donc, c'est vraiment toujours un rapport de pouvoir, un rapport dichotomique, toujours en relation à l'homme. Tu sais, même si on pense aux histoires initiales là, de Adam et Ève ou dans la Grèce antique, il y a toujours ce même rapport-là qui est articulé. Donc, la femme est la côte de l'homme, la femme est un complément à l'homme. Donc, une femme qui va s'émanciper de ce rapport-là, qui n'a pas besoin d'un homme, des hommes pour pouvoir vivre sa vie, pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir être satisfaite et accomplie, ça pose une menace à un ordre social fondamental. Donc, on peut comprendre un peu cette peur comme une certaine peur, une insécurisation de quelque chose qui va menacer l'ordre social.
Alors, comment réagis-tu? Parce que j'imagine que tu as vu la campagne de la Fondation Émergence avec toutes ces phobies, celles contre les fers à repasser, puis j'ai dit tantôt, puis les balayeuses. Moi, je suis très d'accord avec cette phobie-là, mais en tout cas, ça ma paresse, c'est pas de la phobie. Mais non, mais comment tu réagis à ça?
Ben c'est excellent d'en parler, de mettre l'accent sur la peur de l'incompris. C'est ce qui s'est passé beaucoup dans les derniers temps avec toute l'histoire autour des drag queens. Donc, la phobie qui s'articule d'une peur de l'inconnu, quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler, quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en discours, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, on va avoir peur de cette chose parce que ça s'articule en dehors de notre sphère, de ce qui est connu. Donc, je trouve que c'est un angle très important, c'est un angle super intéressant que la campagne a pris pour mettre l'accent là-dessus.
Donc, toi et moi, on parle de lesbophobie. C'est pas un terme qui est inclus, qui est inclus officiellement, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Comment ça se manifeste, cette lesbophobie, à part le fait que on a dit oui, les femmes sont toujours définies par rapport à un homme, mais dans la vie de tous les jours, pour une femme lesbienne, comment ça peut se manifester?
Ben, si on passe à des exemples concrets, on peut penser à des micro-agressions constantes, surtout dans certains environnements de travail, se faire demander c'est qui fait l'homme? Ah, t'es Gwyn, c'est pour ça que t'as coupé tes cheveux d'une certaine façon. Bon, certains stéréotypes assez récurrents qui se font beaucoup poser. Aussi, une sexualisation, la lesbophobie, on peut aussi parler d'une certaine sexualisation, c'est très, très prononcé. De se faire demander beaucoup de détails, d'être insistant. Moi, je vais te montrer c'est quoi un pénis. Moi, je vais te montrer c'est quoi. Je vais
Ah
être l'homme qui
oui.
va te faire changer d'avis.
Oui,
Donc, c'est
oui,
sûr que ça aussi, ça
oui.
s'articule
Le
tout autour
trophée,
de
hein, j'ai réussi à reconvertir une.
convertir la lesbienne.
Oh my God, ça existe encore. Mais
Ça existe
malheureusement,
encore.
ça existe aussi chez les hommes, hein? Qui fait l'homme,
Oui,
qui fait la femme dans votre
oui,
couple, moi?
oui.
Quelle histoire, quelle histoire. Mais à chaque fois, je me dis, comment on mesure ça? Parce que je sais qu'on mesure les actes homophobes, hein? On rentre là-dedans la grande panoplie. Encore une fois, la langue étant ce qu'elle est. Quand il y a un masculin, tout le monde est masculin à ce moment-là. Mais est-ce qu'on mesure ça? Est-ce qu'on a des données sur la lesbophobie au Québec?
Des données sur la lesbophobie en tant que telle, nous, justement, on est en train de. Il y a un manque de données en général. Les femmes lesbiennes sont souvent invisibilisées, même dans la recherche LGBT. Donc, il y a vraiment un énorme manque de données. Nous, justement, au Réseau des lesbiennes du Québec, c'est quelque chose qu'on essaye de faire, d'essayer de vraiment produire plus de connaissances par et pour sur le vécu, sur les enjeux vécus par les lesbiennes. Donc, récemment, on a fait un sondage autour de plus de 1 000 participants à travers les 17 régions administratives du Québec. Et on a essayé de comprendre quel genre de lesbophobie vivait, quel genre d'actes haineux vivaient les personnes selon leurs intersections, selon les différentes régions. Donc, il y avait un trait autour de personnes qui avaient déjà vécu, que ce soit des agressions sexuelles, des agressions physiques, des commentaires inappropriés dans des lieux de travail, dans des sphères familiales. Donc, c'est quelque chose qui était quand même assez relativement commun chez les personnes.
Ben justement, ça vous prend des données, mais j'imagine que vous travaillez aussi à une certaine sensibilisation des gens. Comment vous travaillez là-dessus? Comment vous
On fait des campagnes de sensibilisation à chaque année. Donc,
la journée de visibilité lesbienne.
Oui, exactement. Oui. La journée de visibilité lesbienne. Donc, cette année, notre campagne, ça a été nommée pour exister, donc pour sortir de l'ombre. Donc, par des campagnes de sensibilisation, on va produire des podcasts aussi. On va faire du lobbying autour de différentes instances. Quand il y a aussi des enjeux qui touchent les femmes, les droits des femmes, on va être présente là aussi. Il peut y avoir de la lesbophobie dans les milieux de femmes, aussi les milieux de femmes dominés par les femmes hétérosexuelles qui vont se sentir menacées. Ça s'est déjà arrivé à plusieurs personnes de se sentir comme une prédatrice, de se faire sentir comme menaçante pour les femmes. Donc, ils pensent que peut-être qu'une prédatrice sexuelle s'est infiltrée dans leur réseau. Donc, c'est quelque chose qui peut se retrouver dans plusieurs milieux.
Wow! C'est vraiment complexe. Hein? Je vais revenir sur l'invisibilité des lesbiennes, puis je pense que je vais faire un petit tournant. Vous venez de publier au Réseau des lesbiennes du Québec les archives lesbiennes.
Oui.
Parle-moi de ça.
Ah, ben ça, c'est un ouvrage impressionnant. Tu vas en parler bientôt avec Julie Vaillancourt.
Oui. En fait, j'ai oublié d'aller chercher mes deux tomes encore, je vais le faire.
J'aurais dû les amener.
Ouais.
Donc, c'est un ouvrage vraiment impressionnant qui a été fait par la RLQ, donc écrit par Julie Vaillancourt, révisé par Lynn Chamberlain et Dominique Bourque, qui a retracé l'histoire des femmes de la diversité sexuelle en remontant à Sappho, en Grèce antique. Donc, première trace d'où vient le terme lesbienne, en fait, et qui documente aussi jusqu'à aujourd'hui au Québec, donc tous les mouvements lesbiens, l'intersection entre le mouvement lesbien et le mouvement féministe. Donc, souvent, on dit que l'histoire, en fait, c'est pas un récit objectif. Les faits qu'on choisit de visibiliser sont choisis par des institutions, on va choisir que certains faits historiques vont avoir plus de valeur que d'autres, vont être racontés et racontés à nouveau. Alors, pour nous, c'est important de faire en sorte que l'histoire des femmes de la diversité sexuelle sorte de l'ombre, sorte des marges. Donc, on mette d'autres figures de l'avant par exemple, la figure de l'homme blanc qui part en guerre, qui domine les récits historiques qu'on apprend dans notre cursus scolaire.
Tout à fait. Mais l'histoire a été écrite majoritairement par des hommes blancs hétérosexuels.
Alors, ça explique.
Donc, c'est vraiment intéressant parce que ça va mettre donc. Moi, j'ai très hâte de lire. Je sais que c'est deux bonnes briques à lire, mais.
Un beau mille pages. Tu vas en avoir à lire.
Ça me fait pas peur. Et ce livre-là, il est disponible.
Il s'est déjà écoulé très rapidement. On avait 200 exemplaires, mais là, on va republier une centaine d'exemplaires. Donc, il faut juste contacter le Réseau des lesbiennes du Québec et bientôt, les rééditions vont être disponibles.
Vous n'êtes pas disponible en librairie avec ça, hein?
C'est disponible à la Bibliothèque nationale en consultation.
OK, OK. Oui. Mais on n'est pas encore diffusé, distribué à ce moment-ci.
Non, exact.
C'est quand même triste de ne pas avoir eu une maison d'édition qui vous prenne en main.
Oui,
hein?
Ben c'est ça. Il y a toujours des enjeux économiques. Les communautés lesbiennes sont très, très cadrées par des enjeux de précarité économique. Donc, si on les compare, par exemple, aux hommes gays, donc, il y a plus de difficultés à avoir du financement, plus de difficultés à maintenir des espaces, des structures. Donc, il y a quand même une différence assez importante là, au niveau des ressources et des moyens.
Bien, c'est pour ça qu'on doit parler et de vraiment d'échanger et d'inviter les gens des communautés ou des personnes des communautés lesbiennes. Parce que c'est vrai que les gens disent toujours, ils sont où les lesbiennes? Mais ils sont là, c'est parce qu'on les voit pas.
Tout à fait.
Mais vous avez eu cette année, je reviens sur votre campagne, quand même deux artistes très connus qui ont été vos porte-parole, Geneviève et Mélodie.
Oui, oui, qui ont produit la pièce de théâtre Ciseaux, qui est une pièce de théâtre vraiment impressionnante.
Elle est excellente. Oui.
Donc, c'est vraiment super. Puis, tu sais, elle performe en drag king. Donc, c'est intéressant comment les drag kings ont été vraiment invisibilisés longtemps. Tu sais, il y avait vraiment les drag queens qui dominent dans le village, dans les récits médiatiques. Donc, c'est super de voir que des drag kings aussi commencent à prendre de l'ampleur, que ce type de performance artistique-là, que ce type de critique de la masculinité, disons, où cette performance de la masculinité puisse prendre de la place aussi.
Et c'est très drôle.
C'est très drôle.
J'ai eu Geneviève en entrevue ici.
Ils sont trop drôles.
Où elle disait carrément que son rôle dans Drag King, c'est de combattre le patriarcat.
Yes. <C'est>... J'adore.
Cela dit, j'ai posé la même question en fin d'entrevue à Laurent tout à l'heure. Mm-hmm. Je te la pose à toi. Avec tout ce mouvement qu'on voit, ce mouvement radical, très méchant, très dur envers nos communautés, est-ce qu'on devrait craindre? On est toujours en sécurité?
Bien, je pense qu'on est une communauté qui doit faire preuve de solidarité. Puis c'est ça qui est le fun qu'on voit maintenant dans les milieux LGBT, de vraiment faire preuve de solidarité. Donc, il y a notamment vraiment une montée de la transphobie assez effrayante. Donc, je pense qu'il faut continuer de faire des gestes pour appuyer les personnes qu'on s'appuie entre personnes de la communauté pour pouvoir faire face à ça. Donc, nous, par exemple, cette année, on va donner à Fierté Montréal une conférence avec l'ATQ, donc l'organisme Victoria va présenter après moi, donc sur les perspectives inclusives du lesbianisme. Donc, montrer qu'on peut être lesbienne et trans, on peut être lesbienne et cis, on peut être lesbienne et non-binaire. Donc, je pense que c'est important de déconstruire même au sein de nos communautés certains discours plus essentialistes pour pouvoir après être plus fort puis faire front commun à toute cette vague de haine qui déferle.
Historiquement, les femmes ont quand même été plus à risque mm-hmm. de violence. Cela dit, avec ce qui se passe présentement et quand on est une femme lesbienne, est-ce mm-hmm. qu'on doit... Je le dis avec toute bienveillance et certainement pas avec sexisme, mais est-ce qu'on mm-hmm. doit être redoublé de prudence maintenant?
Je pense que définitivement, la prudence est toujours de mise, mais c'est certain qu'il faut continuer de parler de certaines choses puis de continuer de visibiliser certains enjeux. Donc, je pense que c'est vraiment une façon de mener des luttes. Donc, je pense qu'on est quand même, encore une fois, on est quand même une communauté forte, on est une communauté unie, il y a des belles choses qui se font. Donc, de continuer de travailler ensemble dans la solidarité pour pouvoir éventuellement, avec un gouvernement conservateur qui va rentrer, être capable de faire des initiatives collectives.
On parle du gouvernement conservateur
oui,
au fédéral.
Au fédéral. Ouais.
On n'espère pas au provincial.
Ouais. Ah, oui.
Qui lui a donné, toujours la blague, qui lui a donné une carte de membre, lui. C'est affreux de dire ça. Il nous reste quelques secondes. Okay. Vous allez faire quoi pour la journée, le réseau lesbienne?
Se rend à Ottawa avec Laurent, avec qui vous avez parlé plus tôt. Donc, oui. On va rejoindre le réseau Dignité. Donc, on trouve que c'est très important de faire en sorte qu'un organisme lesbien inclusif soit visibilisé au niveau fédéral, au niveau pan-canadien. Donc, de se montrer solidaire de toutes les luttes qui se passent actuellement.
Tara Chanadi, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Alors, c'était Tara Chanadi, directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec.